L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Antonio Caprile a les yeux fixés sur les flots que son navire est en train de fendre. Voilà qu'enfin, son navire marchand peut quitter la ville de Kaffa, en Crimée, assiégée pendant de longs mois par les barbares mongols de la Horde d'Or. Pendant tout ce temps, la soie que le bateau de ce génois transporte est restée bloquée dans la cale qui sent le moisi. Antonio est fébrile, voire absent. Les épreuves qu'il vient de traverser hantent son esprit. Son prochain objectif est Constantinople, la cité des cités, là où l'or tombe du ciel les jours de pluie. Son jeune fils, brusquement, sort de la cabine et se précipite dans ses bras. Il a besoin de comprendre ce qu'il vient de se passer. Voilà donc notre marchand qui s'assoit à côté de lui sur le pont et qui débute l'histoire d'horreur la plus réelle qui lui ait jamais été donnée de raconter. Antonio Caprile l'ignore, mais dans sa cale, il transporte la mort et va la transmettre au monde entier. Le froid est sec et le soleil brille ce 4 février 1347. Il est 13h, déjà. Les nuages au loin s'accumulent et c'est leur hache de mon récit. Gianni Beg, ce nom-là à lui seul, claque comme la voile qui pousse le navire loin de cette ville de malheur. C'est le nom du Khan de la Horde d'Or, son chef, si vous préférez. Ce sont de violents mongols aux turbans colorés qui en ont après la ville de Kaffa depuis de très longues années. Antonio Caprile et sa famille, ainsi que son équipage, ont eu la mauvaise idée d'entrer dans la ville pour y chercher de la soie et d'autres tissus précieux pour les ramener à Constantinople à la fin de l'année 1344. Pas de bol. Au moment où ils étaient prêts à repartir, les Mongols sont arrivés et ont bloqué toute la ville à l'intérieur des remparts, dans les premiers jours de la nouvelle année. Alors qu'il avait déjà été repoussé une première fois auparavant, le Khan était revenu pour se venger. Ses cavaliers, hurlant sous les remparts, sabres courbés à la main, terrorisaient les marchands et les habitants. Dans près de 6000 maisons, environ 11 000 habitants vivaient en dehors des murs. Caprile n'a pas besoin de décrire précisément l'ampleur de la catastrophe pour que son fils de 11 ans la comprenne. Certains habitants, même beaucoup, et c'était heureux, avaient réussi à se réfugier à l'intérieur, tandis que les autres furent tués ou réduits à l'esclavage. Tout avait été fait pour les humilier. Bien à l'abri près du port, Caprile et sa famille n'avaient heureusement pas eu à subir ce genre d'attaque. Le marchand avait rapidement compris, cependant, que cette lutte serait de longue haleine et que le sang allait couler à de nombreuses reprises. Colonie génoise, située en Crimée, la ville de Kaffa était assez petite. Bien que fortifiée récemment, elle n'était pas en capacité de tenir longuement un siège sans un ravitaillement en quantité suffisante. Ce d'autant que sa population était nombreuse. Les Mongols, eux, avaient des réserves de nourriture. Tout augurait donc la défaite des Génois à terme. Durant les premiers mois, certainement toute la première année de siège, Caprile avait passé son temps à se ronger les sangs. Il avait peur de se faire scalper le crâne par le sabre oriental de l'un de ses sauvages. Heureusement, les remparts les protégeaient. Allez-y, vous frappez une lame de sabre contre la pierre. Vous allez certainement casser votre arme, mais certainement pas percer la muraille. Le Khan, donc, avait choisi une autre stratégie, celle d'affamer la ville, la contraindre à se rendre. Encore une fois, lui, il avait tout son temps et ne craignait rien. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Tous les matins, le Khan avait l'habitude d'effectuer un rituel somme toute assez cruel. Il venait sous les remparts et haranguait les autorités de Kaffa pour qu'elles se rendent. Généralement, il emmenait avec lui l'un des otages. Devant le manque de répartie de ceux qui se terraient derrière les hauts murs de pierre, le Khan lui tranchait la gorge. Sans ménagement, sans aucune pitié. Mais ce matin, le scénario ne s'était pas déroulé comme prévu. Peu après son arrivée sur place, son officier le plus proche l'avait rejoint dans un nuage de poussière et lui avait chuchoté quelque chose à l'oreille. Le khan en avait été tellement perturbé que les deux cavaliers avaient immédiatement fait demi-tour et galopé en sens inverse, oubliant l'otage extrait des rangs des prisonniers. Le vieil homme, qui eut la vie sauve de manière miraculeuse, ne s'était pas fait prier pour courir vers les remparts. En fait, le khan, lui, se retrouvait face à un problème bien plus important. Certains des otages génois et certains de ses hommes étaient mystérieusement tombés malades. Une épidémie, et pas n'importe laquelle. Foulard sous le nez, le khan est conduit sous une des tentes de son campement. Le vent s'engouffre sous la toile. Des râles provenant de la couchette cachée dans l'obscurité laissent à penser qu'un monstre immense respire là. Le leader mongol se retrouve face à face avec l'un de ses jeunes cousins. Il se souvient qu'il a fait tuer le père de ce jeune homme voilà des années pour se faire couronner. Pas de pitié pour obtenir ce que tous les hommes de bonne naissance cherchent, le pouvoir. Brûlant de fièvre, le jeune homme tend la main vers son chef, qu'il ne la saisit pas. Sous son aisselle pointent deux grosses boules noires, bien visibles, purulentes. Pas de doute, le khan a déjà vu ce mal sévir. La mort noire a commencé à se propager dans ses rangs et dans ceux de ses prisonniers. Son cousin est foutu, il le sait. Et en effet, le lendemain, le jeune est retrouvé mort, un liquide noirâtre coulant le long de sa jambe. D'autres hommes ont commencé à tousser. La plupart des prisonniers maintenant sont atteints. Le khan, lui, se protège. Il s'isole autant que possible, arrête d'aller traîner sous les remparts de la ville. Les habitants assiégés, doucement, reprennent espoir et pensent qu'ils sont tirés d'affaire. Mais le passage n'est toujours pas libre et l'accès à la mer est toujours bloqué. Caprilé, dont la barbe a fini par pousser tout le long de cet enfermement, contraint et forcé, a bien cru que c'en était fini pour le khan. Il se trompait. Sans aucune pitié, le chef mongol a fait exécuter tous les malades, absolument tous. Il a même été jusqu'à ourdir un plan monstrueusement diabolique. À l'aide de quelques catapultes légères, facilement fabriquées. Alors qu'un matin, il se baladait dans le cœur de la cité, le marchand lui-même a reçu sur la tête un bras. Coupé, putride. Une avalanche de corps malades, découpés en morceaux, a été balancée par-dessus les remparts par le khan aux yeux injectés de sang. Il cherche, évidemment, à propager la maladie. Certes, les rangs de son armée sont décimés, totalement. Il n'a plus assez de ressources pour espérer gagner. Mais pour lui, hors de question de perdre. Il a donc contaminé la ville de Kaffa, qui, très rapidement, a tenté à son tour de se débarrasser de ses sources de propagation. La plupart des morceaux de corps ont été balancés à la mer, mais cela n'a pas suffi. L'un après l'autre, tous les habitants sont tombés malades. La femme de Caprilé aussi. Elle n'a pas survécu. Elle est morte le jour où les autorités de la ville et le khan se sont mis d'accord pour que le siège soit levé. Le marchand l'a enterrée précipitamment ce matin, avant de prendre le départ pour la terre promise. Dieu merci, aucun membre de son équipage n'était tombé malade. Caprilé pense donc être tiré d'affaire. Il n'en est rien. Certes, il fuit les Mongols et leur odieux stratagème de propagation de la maladie, mais c'est sans compter d'autres vecteurs, plus insidieux, qui vont la transmettre. N'oublions pas que de petits animaux se sont faufilés partout, depuis les tentes des malades mongols jusqu'aux remparts de la ville, jusque dans les cales du navire. C'est ainsi que, bien installé dans la cale, entre les tentures de soie, une colonie de gerbilles a fait son nid dans son bateau. Des gerbilles, oui, pas des rats, qui, une fois le navire à quai à Constantinople, vont se propager dans la ville et sur le monde. trembler, car la mort noire, insidieuse, violente, est en chemin. Notre histoire se poursuit un peu moins d'un an plus tard, en janvier 1348. Nous sommes à Avignon, au cœur du Midi français. La cité antique est depuis peu une cité papale. D'ailleurs, le pape, en personne, organise aujourd'hui un office. De nombreux pèlerins sont venus sur place afin de l'entendre prêcher. La maladie dont on parle depuis des mois en Orient, petit à petit, semble gagner l'Occident. Ce n'est pas encore la panique. Nous n'en sommes qu'au stade des premiers bruissements. Les gens vivent encore normalement, se croisent dans les rues et se saluent. Les fenêtres et les portes sont ouvertes. Les animaux vont et viennent comme ils le veulent. Les enfants jouent tous ensemble. L'hiver est rude, certes, mais cela n'empêche pas la vie de s'écouler à Avignon comme ailleurs. Le quotidien dans la cité papale est calme, reposant. C'est du moins l'impression qu'en a François Dhaulme, un prêtre venu de Provence pour rencontrer sa sainteté le pape. Entré dans les ordres il y a une dizaine d'années, le jeune trentenaire est en quête de réponses. Originaire de Marseille, il a été frappé, comme tous les autres habitants, du mal qui sévissait il y a peu en Orient. En novembre 1347, son monastère a été averti que les premiers malades étaient annoncés au port. Personne ne sait rien de ce mal qui touche les locaux, si ce n'est qu'ils sont eux-mêmes contaminés par des marchands. Comme une traînée de poudre, en quelques jours, voire quelques semaines au maximum, le mal a rongé le cœur de la vieille ville et du vieux port. Une situation ubuesque, horrible, dans laquelle les gens meurent de symptômes que personne ici n'a jamais traités. Livrés à eux-mêmes, dans d'atroces souffrances dans bien des cas, les plus faibles sont parfois fauchés par la mort en moins de 48 heures. Des bubons, des sortes de gros pustules noires, leur poussent sur l'aine ou sous les aisselles. La fièvre monte, souvent de la toux, et des douleurs thoraciques viennent compléter l'ensemble dès le premier jour. Puis, peu de temps avant de passer l'arme à gauche, des muqueuses deviennent sanglantes ou aqueuses, et le tableau se complète par une pneumonie fulgurante, des délires. Et le grand saut, brutal. Cette mort effraya d'emblée tous les témoins de ces décès pour le moins horribles. François Dhaulme a bien tenté de prendre toutes les précautions nécessaires en se couvrant le visage et les orifices avec un linge, alors qu'il tentait d'apporter, comme il le pouvait, du réconfort aux malades et à leurs familles. En vain dans bien des cas de figure. En allant contre toutes les précautions d'usage, alors même que cela leur a été déconseillé en ce mois de janvier, de nombreux Marseillais se sont rendus dans la cité d'Avignon. Lui comme les autres. Tous auraient sans doute mieux fait de rester au monastère ou parmi les malades, à l'abri des murs, pour protéger tous les autres. D'ailleurs, Dhaulme commence à se sentir mal depuis ce matin. Oh, il a mis ça sur le compte de sa longue marche, de son épuisant voyage. La tête lui tourne, il a un peu de fièvre. Voilà qui est parfois courant lorsqu'on fournit un long effort. Mais qui sait, on ne sait jamais avec ce mal qui court. François Dhaulme doute. Quoi qu'il en soit, il est trop tard. Le voici au milieu des habitants d'Avignon, en pleine liesse. Tout le monde se congratule, s'embrasse. De petits animaux rampants passent le long des jambes, perturbés par tant de mouvements. Ce sont des rats noirs. François Dhaulme l'ignore bien entendu, mais ce sont eux, les véritables vecteurs de la propagation de cette maladie. Eux et les puces qui sautent d'épaule en épaule. Les gerbilles des cales de Constantinople ont contaminé les rats noirs qui sont arrivés à Marseille. Cette sous-race n'existait pas en Europe de l'Ouest. Elle arrive sur le continent avec la maladie sur la peau. Et à Marseille comme ailleurs, dans les caves des monastères ou dans les champs, ils se reproduisent et pullulent, contaminant une personne qui en fait tomber malade deux autres. Ce que François Dhaulme ne sait pas non plus d'ailleurs, c'est que, sous son bras gauche, sont en train de pousser deux petits bubons. Demain, il se réveillera malade. Après-demain, il sera mourant et ne pourra jamais rencontrer le pape. Le jour d'après, son corps sera emmené à la morgue avec tous les autres. Si au début du mois de janvier, la panique n'était pas dans l'air, tout le sud de la France sera bientôt victime d'une nouvelle épidémie qui se propage comme une traînée de poudre microbiologique avec le retour de la douceur du printemps. Pour la première fois, la peste noire vient d'arriver en France et elle s'apprête à faire d'immenses dégâts. La maladie se répand par vagues. C'est l'une de ses caractéristiques. Je veux dire par là qu'elle ne s'installe pas durablement à tel ou tel endroit. Non, au contraire. Sa propagation dans une ville est fulgurante, brutale. Elle emporte tout sur son passage. Suivant les zones, la mortalité en 1348 atteint une moyenne allant de 30 à 60%. Un véritable délire. Marseille est donc la première ville touchée de France, du fait, bien entendu, de son commerce très important venant de la mer. C'est de la même manière que quelques mois plus tard, les ports italiens seront mis au ban. Début janvier, en même temps qu'Avignon, la ville de Pise est aussi touchée. Les gens meurent. La panique gagne les routes. C'est une véritable catastrophe humaine et de santé publique. Les nobles se cachent dans leurs châteaux. Les paysans qui vivent bien souvent les uns sur les autres sont terrifiés. Les plus à plaindre sont ceux qui vivent dans les rues exiguës des villes, là où les déjections attirent les rats, qui côtoient également les porcs et les autres animaux. L'hygiène des rues arrivera bien plus tard. Il n'en est pas encore question lors de ce Moyen-Âge marqué par de profondes transformations dans la société. Une société bien moins noire que ce que la légende a bien voulu nous transmettre, mais certainement aux antipodes de nos sociétés actuelles. Les gens ont peur, ne savent pas lire ni écrire pour la plupart, et ne peuvent donc comprendre le mal qui les frappe de plein fouet et les tue sans ménagement, sans aucune pitié. Certains paysans du Bordelais, lorsque la peste les décime à la fin du mois de juin, murmurent. Certains disent qu'ils ont vu sur la route quatre cavaliers aux montures de couleur feu, blanche, noire et verte. L'un représente la guerre, un autre les conquêtes. Le troisième la mort, alors que le dernier, lui, est toujours en tête de ce macabre cortège. Celui-là, le vert, est celui qui amène avec lui l'épidémie. Ces chevaux aux sabots de sang emportent tout sur leur passage, en particulier les bons sentiments et ce qui fait la beauté de ce monde. Ils ne laissent derrière eux que des malades et des morts, le tout dans un nuage de cendres. L'été 1348, particulièrement chaud et humide, ne va pas arranger les affaires des habitants de l'Europe. Le mal arrive à Paris, s'installe dans différents quartiers de la capitale. On tente de mettre en place les premières quarantaines. Des croix blanches sont dessinées sur les portes des maisons où le mal sévit. Cette première épidémie dans l'épidémie, cette première crise, si vous préférez, est des plus meurtrières puisque personne n'y est réellement préparé. N'ayant encore jamais expérimenté la peste, l'Occident se retrouve démuni face à tant de violences. Il y a bien eu ce qu'on a appelé la peste de Justinien, qui a duré 200 ans, toujours par vague. Ce n'est donc pas la première pandémie de peste dans cette région du monde. Mais 500 ans sont passés entre ce premier massacre et celui qui se profile maintenant. Par pandémie, j'entends le fait que plusieurs épidémies, des épisodes de moindre importance donc, y sont regroupées. L'Europe n'a donc pas été malade continuellement pendant 200 ans, mais on s'accorde aujourd'hui à dire que 15 épisodes de peste ont fauché hommes, femmes, enfants et vieillards durant cette période, de la France à l'Italie, en passant par l'Espagne et l'Europe centrale. L'Europe va être totalement dépouillée de sa population en l'espace de 4 ans. Et tenez-vous bien, on parle de 25 à 30 millions de morts, uniquement sur le continent européen. Ah oui, J'ai bien dit millions. D'autant que cette peste noire de 1348 va se trouver une alliée que personne n'avait vu venir. Grâce à elle, de très nombreuses personnes vont encore trouver la mort sous le coup des bubons et des accès de fièvre. Cette alliée, c'est la guerre. Et les ravages qu'elle provoquera vont être des plus inédits. À toute allure, l'Europe entière se retrouve à feu et à sang, avec pour toile de fond l'implacable guerre de Cent Ans.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est au cœur d'une période parmi les plus sombres jamais connues en Europe. Celle durant laquelle sévit la célèbre et cruelle peste noire. Véhiculée entre autres par les rats et les puces, la maladie fait des ravages, tant chez les plus fragiles que parmi le reste de la population. Peu importe les classes sociales, peu importe les conditions de vie, la mort attrape ses victimes au hasard et avec une violence inouïe. Le tout encouragé par les guerres, car le déplacement des troupes participe à la propagation de cette maladie qui, décidément, semble avoir de beaux jours devant elle à la fin de l'année 1348. Nous sommes en Italie, dans la jolie ville de Sienne, en 1350, en plein cœur de l'enfer. La ville est à feu et à sang. La maladie est en pleine expansion. Une nouvelle vague frappe les habitants avec une telle violence que plus personne ne sort dans la rue. La ville, pourtant si vive, au cœur de cette Italie si romanesque, est morte, totalement morte. Le chroniqueur et procureur de la ville, Agnolo di Tura, lui, est l'un des seuls qui se risque à mettre le nez dehors. Et pour une bonne raison. Aujourd'hui, il enterre ses enfants. Sa femme, elle, est déjà morte. Maintenant, c'est au tour de sa lignée de s'éteindre. Pour lui, c'est une véritable tragédie. Les yeux remplis de larmes, il se rend à l'extérieur de la ville, tirant le corps de ses fils et de sa fille dans une charrette à bras. L'homme d'État s'active, seul. Personne n'a voulu venir l'aider. Il est comme seul au monde. Sur son passage, les quelques passants qui sont là s'écartent le plus possible, comme s'il était lui-même pestiféré. Il faut dire que les dépouilles qu'il transporte sont couvertes de bubons, noircies par la mort elle-même. Alors qu'il est suffisamment éloigné de la ville et sans aucun outil, au pied d'un petit arbre dépourvu de feuilles, il commence à creuser avec ses mains. Bientôt, ses doigts sont en sang. Il pleure à chaudes larmes, entouré par des bandes de chiens sauvages qui traînent là. Il n'attend qu'une chose, qu'ils partent pour se ruer sur les corps. Agnolo se refuse à croire que ce qu'il voit est réel. Non, il est même persuadé que tout cela est imaginaire, qu'il le rêve, que Dieu le met à l'épreuve. Cette atmosphère, la fumée omniprésente, l'odeur de chair brûlée, les aboiements des chiens qui viennent profaner les dépouilles des défunts, tout lui donne la nausée et le traumatise. Ses mains, frénétiquement, continuent à gratter la terre. Elles s'immiscent sous les ongles. Le sang de ses plaies se mêle aux petits cailloux. Son costume en soie se salit, passe du rouge au marron. La boue humide se colle partout. Il voit maintenant sa vie défilée, toute sa vie heureuse avec sa femme, depuis la naissance de ses enfants jusqu'à ce jour funeste où maintenant il les enterre. Du tout au tout, passant de la gloire à la tempête, du jour au lendemain, sa vie a basculé. La providence cruelle donne et puis reprend, c'est bien connu. Voilà que maintenant, un trou qu'il estime assez profond est creusé. Auprès de la charrette à bras, il chasse sans ménagement les chiens qui traînent. Il se saisit des corps qu'il enfouit dans le sol. Il ne peut pas les embrasser une dernière fois, malheureusement. Il recouvre leur visage de terre et vérifie que les dépouilles sont assez profondément enterrées pour reposer en paix, enfin, au pied de ce petit arbre aux abords de la ville. Une fois son office fait, l'homme va rentrer chez lui et, comme d'habitude, il va écrire sa chronique journalière sur ce qu'il vit et sur ce qu'il voit. En ce moment, comme vous pouvez l'imaginer, tout est sombre. À peine a-t-il tourné les talons que les chiens, déjà, se mettent à creuser pour enlever ses enfants. Oh, il les voit, mais il ne peut rien faire. Subir, encaisser, encore et toujours. L'homme rentre chez lui, abattu. Il se laisse tomber dans une des chaises de sa pièce de vie, auprès des dernières braises d'un feu de bois qui finit de brûler dans sa cheminée. Les fenêtres sont ouvertes. Un ami médecin lui a conseillé de renouveler l'air tous les jours, même si maintenant, il est tout seul dans cette grande maison. Fébrile, il prend sa plume et couche sur une feuille ce soir-là ses quelques mots. Il est impossible à la langue humaine de raconter l'affreuse vérité. On ne trouvait personne pour enterrer les morts, par argent ou par amitié. Les membres d'une famille apportaient leurs morts dans un fossé comme ils le pouvaient, sans prêtre, sans office divin. De grandes fosses furent creusées et empilées avec la multitude des morts. Et ils mouraient par centaines, de jour comme de nuit. Et tous étaient jetés dans ces fossés et recouverts de terre. Et dès que ces fosses étaient remplies, on en creusait d'autres. Moi, Agnolo di Tura, j'ai enterré mes 5 enfants de mes propres mains, et il y eut tant de morts que tous crurent que c'était la fin du monde. Nous y voilà. Tous croient, dur comme fer, que la punition est divine. La fin du monde, le jugement dernier, l'Armageddon, appelez ça comme vous voulez, et la mort, elle, continue ses immenses ravages. L'épidémie, par vague donc, connaît plusieurs phases. À la fin de l'hiver 1348, une période de répit, certainement due à un hiver des plus rigoureux, est remarquée en Europe. Tout le monde pense que le fléau s'en est allé. D'ailleurs, on remarque également que les zones les plus froides du continent, de l'Islande à la Finlande, sont assez épargnées par la peste qui court sur toute l'Europe de l'Ouest. Mais dès le printemps suivant, en 1349, rebelote. La maladie revient et, inexorablement, continue de tuer et de propager la croyance selon laquelle Dieu est derrière tout ça. Je vous disais tout à l'heure que la peste a pu s'appuyer sur la guerre pour prospérer. C'est le cas. Nous l'avons notamment vu à Kaffa, en Crimée, et ce, avant même que la maladie ne prospère ailleurs. En Europe, la guerre de Cent Ans est en train de se dérouler de Calais à Orléans lorsque la maladie se déclare. Tout comme la peste, ce conflit s'organise et s'articule autour de nombreuses trêves et pauses. L'épidémie ne sera jamais, sur les 107 années que durent ces guerres, continue. Les Français et les Anglais agissent eux aussi par vagues. Ainsi, durant tout le conflit, aucune armée n'aura été décimée par le fléau. Mais dans les esprits, les deux étant en cours lors de cette période, les épisodes sont liés. Dans les faits donc, la guerre n'est pas, du moins, ni en France, ni en Europe de l'Ouest, un véritable propagateur de la maladie. Mais ici et là, durant les sièges, la maladie touche civils et militaires et donc paraît être comme une arme utilisée à part entière durant les conflits. Les prières à ce sujet sont nombreuses. Dans les églises et les cloîtres résonnent bien souvent ces mots. Délivre-nous, Seigneur, de la faim, de la peste et de la guerre. Les éléments s'entremêlent et l'accumulation de fléaux, même s'ils sont distincts, provoque assurément la confusion. La première épidémie de cette deuxième pandémie de peste va durer près de 4 ans. Ceux qui guérissent du mal et qui ne peuvent donc retomber malades sont employés à brûler les cadavres ou à les enterrer sommairement. Les légendes véhiculées autour de cette triste période sont nombreuses. Circulent par exemple les images de ces médecins portant des masques avec de longs becs. Mais attention, en aucun cas ces uniformes jugés protecteurs ne peuvent dater du Moyen-Âge. C'est seulement en 1619 que la cour de France les inventera pour ses médecins. Malheureusement, l'histoire, souvent, est répétitive. En effet, si on invente ces uniformes en 1619, cela veut assurément dire que la peste est revenue. Effectivement, le cycle de la deuxième pandémie de peste qui s'ouvre est un trou béant. Tous les 10 à 12 ans, et ce durant des centaines d'années, très localement ou couvrant une zone géographique parfois plus grande, le fléau revient et tue de nouveau, avec une violence toujours renouvelée. Et ce, malgré les traitements et les dispositions que l'expérience des crises précédentes ont pu apporter. Vous allez le voir, les conséquences et de son apparition en 1348 et de la continuité de sa propagation sont absolument dantesques, méconnues et bien plus importantes que ce que l'histoire a bien voulu nous transmettre. En 1352, après 4 années de crise répétée, la peste en Europe se décide à disparaître. Pour un temps. Elle a cependant emmené dans son sillage au moins 1/3 de la population européenne, soit 25 millions de personnes, sur un total de 75, du jamais vu. Une véritable catastrophe démographique, économique et sociale. Cette épidémie changera assurément le cours de l'histoire. C'est un fait indéniable. Ce fut un désastre.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se penche sur un épisode bien connu de l'imaginaire populaire, la peste noire, qui sévit en Europe entre 1348 et 1352. Les conséquences de ces morts par milliers, elles, sont assez méconnues. Bien souvent, beaucoup plus ancrées dans l'histoire que ce que nous pouvons en savoir. Et surtout, si elle disparaît dans un premier temps, 1352, la maladie n'est pas morte pour toujours. Elle entame des cycles de réapparition, ici et là, tous les 10 à 12 ans. Chaque fois, elle revient plus vivace, plus rapide, plus meurtrière aussi. Accrochez vos ceintures. Certaines vérités risquent de vous décoiffer. Dans l'estimation la plus basse possible, on considère que 30% de la population en Europe a été tuée en quelques années. Certains chercheurs, cependant, poussent le curseur un peu plus loin encore, évoquant 45 millions de morts, soit un taux de mortalité de 50%, rien qu'en Europe. Lorsqu'on ajoute les morts de l'Afrique subsaharienne et de l'Empire byzantin, les chiffres donnent le tournis. Mais de l'Inde à la Chine, les données sont assez peu renseignées. Le chercheur Adrien Philippe a tenté de réaliser des estimations. Il évoque le chiffre de 75 millions de tués dans le monde entier, sur un total de moins de 450 millions d'habitants sur tous les continents. Comment une société peut-elle se relever après avoir été victime d'autant de décès? Comment l'humanité a-t-elle pu rebondir? C'est là, au fond, toute la question. L'Europe, au moment du déclenchement de la peste, est en surpopulation. La récession est en cours. La famine est installée depuis plusieurs années. La mortalité liée à la peste entraîne un choc brutal dans toute l'économie du continent. C'est un cercle vicieux. Plus de morts, moins de main-d'œuvre, notamment dans le monde agricole. Qui dit moins de main-d'œuvre, dit ouvriers disponibles plus chers et donc chômage de masse. Les employeurs ne pouvant payer les travailleurs à la valeur du marché. De nombreux villages à cette période sont abandonnés, laissés pour compte. Dans certaines régions historiquement viticoles, la production chute de plus de la moitié en quelques années. Une véritable folie économique autour des très grandes villes et de celles de taille moyenne, un exode rural massif se met en place. Les campagnes se vident. Les ouvriers agricoles, donc, disparaissent. Un cercle vicieux, comme je vous le disais. La France, en particulier, est touchée de manière structurelle et profonde. Le niveau démographique est profondément meurtri. Ce n'est que sous le règne de Louis XIII, soit 300 ans plus tard, que le nombre d'habitants reviendra au niveau de ce qu'il était en 1348. Un siècle après le début du fléau, la population française est aussi nombreuse qu'elle l'était à la période de César et Vercingétorix. On parle alors d'à peine 10 millions. Une régression qui vient frapper les progressions en cours, assurément. Ce qui participe aussi à ancrer la terreur dans les esprits est certainement le fait que toutes les catégories sociales sont touchées par la maladie. C'est un fait indéniable. L'Italie et l'Espagne ont été particulièrement meurtries par la peste. 60% des évêques en Espagne, 90% des conseillers municipaux à Florence et Venise, et un roi. Lors du siège de Gibraltar, le roi Alphonse XI de Castille meurt de la peste bubonique à l'âge de 38 ans. Vous imaginez ? À l'époque, les souverains sont des descendants directs du Seigneur. Ils sont des personnes sacrées. Alors si même eux peuvent en mourir, comment se sortira-t-on d'un tel fléau ? La population a donc besoin de se trouver un bouc émissaire. Dès 1348, les Juifs sont mis en porte-à-faux. De nombreux massacres ont lieu en Provence, en Castille et en Navarre. Le roi de France, qui est alors Philippe VI, fait juger des Juifs accusés à tort d'avoir empoisonné des puits. Le pape est même obligé de faire publier une bulle papale mentionnant que la maladie ne fait aucune différence entre les religions. Il tente ainsi d'expliquer à ses croyants que la peste ne peut pas être apportée par la communauté juive. Mais les pogroms sont courants, en Allemagne et même en France. À Strasbourg, le 14 février 1349, des centaines de juifs sont brûlés vifs. En réalité, ces persécutions sur l'axe Rhône-Rhin viennent essentiellement du fait que dans ces régions, les médecins sont en majorité issus de confessions juives. Leurs remèdes, jugés inefficaces, provoquent la colère de la population qui les considère donc comme coupables. Le cercle vicieux, encore une fois. Fumigation, saignée, rien ne fonctionne. Du côté du monde arabe, les médecins remarquent que les malades qui guérissent le plus sont ceux dont les bubons ont été vidés. Ainsi, généralement, on les perce et on les cautérise. Le succès de la manœuvre est loin d'être toujours suffisant, mais cela ralentit parfois la progression de la maladie. Lorsque la peste disparaît en 1352, le monde est donc particulièrement soulagé. Mais le mal n'a pas dit son dernier mot, et il va continuer de sévir, pour longtemps. Dans l'imaginaire collectif, vivace à ce sujet, bien souvent les épisodes de la maladie qui suivent sont peu nombreux et décorrélés les uns des autres. Il n'en est rien. L'épisode de peste à Marseille en 1720 est également très connu comme étant le dernier ayant touché la France. Mais pour le reste, rien. Pourtant, les conséquences de la peste noire de 1348 se font toujours sentir aujourd'hui, dans nos sociétés modernes. Tenez-vous bien. Voici une estimation des épisodes pandémiques qui découlent de cette pandémie née au XIVe siècle. Entre 1352 et 1400, 13 épisodes du genre en France, un en Italie. Le siècle suivant, 48 épisodes, dont 43 en France, et ainsi de suite. Sautons quelques siècles et passons la date de 1720 qui marque la fin définitive du fléau en France. La fin de la deuxième pandémie de peste se situe en 1835, à la fin d'un épisode en Iran. Elle aura duré plus de 500 ans. De quoi remettre en perspective ce que la Covid-19 nous a fait endurer. Mais souvenez-vous, je vous ai bien parlé d'une troisième pandémie de peste. Elle s'ouvre en effet en Chine, déjà, en 1894. Et elle continue de sévir de nos jours, ce qui bien souvent est passé sous silence. Rien que depuis le début des années 2000, on a relevé des cas à Oran, en Algérie, au Congo, dans certaines provinces chinoises, à Madagascar par deux fois. La dernière, en 2017, et même un cas infantile en Californie. De quoi vous donner tout bonnement le tournis. Assurément, et même si l'épisode épidémique de 1348-1352 est le plus connu et le plus meurtrier de tous, jusqu'à aujourd'hui, ces relents putrides continuent de s'attaquer à certaines zones pauvres du globe terrestre, nous rappelant à ces mauvais souvenirs. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation d'Albert Camus. Le génial auteur français est bien connu pour ses romans et son style si particulier. Il a écrit un jour, en une phrase, un parfait résumé du lien que la population établit entre la peste et les guerres. Il nous interroge au fond sur le rapport de l'humanité à son histoire ancienne. Il écrit: il y eut dans le monde autant de peste que de guerre. Et pourtant, peste et guerre trouve les gens toujours aussi dépourvus. De l'art de connaître son passé pour y voir son avenir. L'histoire n'est au fond qu'une succession de cercles qui se répètent, n'est-ce pas ? Voilà pour ce récit glaçant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.